Mesdames et messieurs, avancez s'il vous plaît. L'histoire va vous parler.
Jean Kelevitch, l'esprit de résistance.
La résistance a commencé par dire non. Ça a été le premier acte, n'est-ce pas ? Les gens qui participaient à la résistance ne savaient pas eux-mêmes de quoi l'avenir serait fait, mais il y avait certaines choses fondamentales qu'ils ne pouvaient pas admettre, qui leur étaient communes, qui les réunissaient, et qui étaient évidemment négatifs, ce qui était source de malentendus par la suite. Mais bien entendu, le commencement du commencement, le commencement de tout, c'est le mot non, le monosyllabe non.
La guerre, alors qu'il avait 37 ans, coupa sa vie en deux, avant l'agrégation de philo, les effets de sa voix unique qu'il guettait chez les jeunes filles, après l'édification d'une œuvre considérable en cette matière qu'il considérait comme majeure, la philosophie morale, mais entre les deux, toute la douleur du monde. C'était un blessé qui ne cessa de considérer les cicatrices des années terribles. Surtout, recommandait-il, ne pas laisser l'ouvrage du temps dissoudre le crime. Un crime est un crime et le génocide est imprescriptible. Dans les cérémonies d'hommage aux morts, il aurait volontiers prolongé la minute de silence jusqu'au bout des temps. Néanmoins, l'homme était vif argent, cultivait un humour constant. Sa voix et son rythme provoquaient l'enchantement. Qui l'a entendu à la Sorbonne, où il enseigna un quart de siècle, ou plus tard, par la magie des enregistrements, ne peut l'oublier. Il incarne une figure d'indomptable dont la morale est inséparable de ce monosyllabe « non ». On a parlé à son propos de mémoire excessive, peut-être, mais cette mémoire déclenchait l'intranquillité et le mouvement, de même que son refus pendant la résistance avait impliqué l'action.
La marche de l'histoire. France Inter, Jean Lebrun.
Françoise Schwab, bonjour.
Bonjour.
Vous publiez, c'est le 12e peut-être de vos livres autour des textes de Jean Kelevitch, un certain nombre d'articles qui sont restés épars, dont quelques-uns étaient inédits, autour de ce thème, l'esprit de résistance, c'est chez Albin Michel. Je ne le fais jamais, mais je peux mettre sur la table un petit fait personnel.
Bien sûr.
J'étais un étudiant atteint de cuistrerie juvénile.
Un trisotin métaphysique, comme disait Vladimir.
Métaphysique, sans doute pas. Un trisotin, sûrement. Et ma mère était demeurée ce qu'elle était, une concierge. Et donc, une distance se créait entre nous. Mais il y avait quelque chose qui nous rassemblait le lundi à 16h. Elle était dans sa loge, elle repassait son linge et on écoutait ensemble dans la même ferveur les cours de Jean Kelevitch à la Sorbonne.
Oui, cette voix.
Alors maintenant que j'ai mis ça sur la table, vous mettez autre chose de plus intéressant sur la table, sur votre rapport personnel avec Jean Kelevitch.
Non, tous les rapports sont identiques, tous les rapports humains se valent. Moi, j'ai eu la chance là, de le rencontrer, et comme toutes les rencontres, elle est fortuite, due à l'occasion. Occasion, thème cher s'il en fut dans la pensée de Jean Kelevitch, et qu'il a longuement développé dans un livre qui s'appelle... d'un titre encore qu'il fait d'un ironiste, le je ne sais quoi et le presque rien. Et cette rencontre, moi j'étais étudiante en histoire, et un jour, ayant lu ses livres, une amie faisait de la philo, m'a dit tu viens l'écouter à la Sorbonne, un cours public dont vous venez de parler. J'y suis allée, c'était l'avant-dernier cours, évidemment je suis tombée en admiration et sous le charme de la pensée en action, je la voyais vivre, cette pensée que je lisais dans ses livres. Et elle me dit, tu n'es pas chiche de lui faire dédicacer ton livre la prochaine fois, c'était le dernier cours. J'ai dit si, alors je me reprends la fois suivante avec mon gros traité des vertus, à la fin du cours, je n'ose pas, il était là, je n'ose pas le lui présenter, lui voit son livre, parce que bon, cet énorme pavé, il me fait signe, il le signe, et il me dit bon courage pour l'examen. Et je lui réponds, ah non, moi je suis étudiante en histoire, mais j'aime la philosophie et j'aime surtout votre pensée. Et voilà, quelques temps après mes certificats d'histoire en poche, j'ai eu l'année suivante, j'ai eu le loisir d'aller à tous ces cours, trois cours, dont le séminaire du mardi matin. Et là, un jour, il s'approche de moi en me disant « Voilà, mademoiselle, pour vous qui faites de l'histoire. » Et il me donne un tiré à part sur Machiavel qu'il venait d'écrire. Et voilà, bon, quelques temps après, il me dit « J'ai une réunion d'assistants, venez cette semaine, ce samedi. » Je lui réponds « Non, je ne peux pas, monsieur le professeur. » Je rentre, étant provincial, je rentre dans ma famille tous les samedis. Et en rentrant, j'ai dit à maman, je suis stupide. Plus jamais il ne parlera à une étudiante aussi bête. Eh bien, ce fut l'effet inverse qui se produisit. Quelque temps après, il me dit « Venez dîner demain soir, il n'y aura que ma femme et ma fille. »
Et c'est ainsi que vous êtes devenue une intime du un quai aux fleurs qu'il a habité après la guerre.
Mais demeure enchantée.
Je voudrais qu'on évoque le temps où il n'était plus monsieur le professeur. Il avait commencé comme maître de conférence à Lille. Oui. Il est replié à Toulouse. Il croit avoir trouvé asile à Toulouse l'été 1940. Mais le régime de Vichy s'aperçoit qu'il n'est pas un Français de vieille souche. Qu'il est juif aussi. Et le voilà éjecté de l'université.
Si je peux me permettre, il faut rappeler qu'auparavant, il a été blessé, il a fait la guerre, il a été blessé à Sauvetat en Guyenne, et c'est en tant qu'ancien combattant qu'il s'est replié à Toulouse lorsqu'il y a eu la guerre qu'on nommait, après la fin de la guerre qu'on nommait drôle, comme disait Cassou. Et à ce moment-là, il a pu assurer des cours. Puis arrive cette première loi en juillet. Pour les Français à titre... Alors, cette loi ne s'adressait pas à lui, puisqu'il était ancien combattant. Par contre, en octobre, et ensuite, il est victime du statut des professeurs juifs radiés.
Le voilà sans ressources, mais pas sans admirateurs, ni sans amis. La librairie de Silvio Trentine, rue du Languedoc, à Toulouse, sert d'abri. Puis aussi, ce café Place du Capitole que décrit ici Jean-Pierre Renoir.
Cet homme était d'abord très jeune. Deuxièmement, il était totalement tragique. Il était mince, il était beau, il était... désemparé, il était debout derrière une chaise et il nous parlait de la mort. Il en a parlé pendant des semaines. Je ne me souviens pas si c'était plusieurs fois par semaine que nous allions dans ce café de Toulouse ou seulement une fois par semaine. En tout cas, chaque fois, c'était une expérience extraordinaire parce que c'était un grand. Il était très éloquent. Le sujet était vraiment presque d'actualité étant donné les ravages que faisaient les Allemands. Et c'était absolument tragique de voir cet homme seul, réduit à une condition misérable, qui attendait qu'on passe une soucoupe avec des pièces de différentes dents pour pouvoir se nourrir le soir. C'était quelque chose de tragique.
Il travaillait au chapeau dans ses conférences, il faisait le nègre, il corrigeait des copies pour les boîtes à bac. Mais il y avait, dans Toulouse, qui n'a pas été systématiquement résistante dès le départ, un nombre de personnages anticonformistes qui ont rejoint les rangs du refus tout de suite, extraordinaire.
Oui, bien sûr. Toulouse était quand même une ville très résistante puisque il y avait déjà, elle avait déjà fait preuve de son accueil lors de la guerre d'Espagne. Et après Lyon, c'était quand même le centre de ce qu'on appellera la résistance. Il y avait des personnages extraordinaires. Il y a eu, comme vous le disiez, pensiez l'autre jour, Charles d'Aragon. Il y a eu Jean-Pierre Vernant, bien après, grand combattant. Georges Canguilhem, qui était professeur. Il y a eu Ignace Meyerson, qui était un professeur de psychologie. Il y a eu une effervescence.
Pierre Berthaud, il faut parler de Jean
Pierre
Cassou.
Berthaud et Jean Cassou, son beau-frère.
Le beau-frère de Jean Kélévitch, que vous avez bien connu d'ailleurs.
Ah, très bien, très bien. Jean Cassou a fait une guerre absolument exemplaire. Il a commencé tout de suite par avoir rejoint le réseau du Musée de l'Homme, très vite démantelé, comme vous le savez. Très peu de temps après, dès 41, il a été prisonnier dans la prison de Furgol, où il a écrit ses poèmes écrits au secret que Georges Dutilleux mettra en musique. Quand il est rentré de cette villégiature, comme le dit Vladimir Jankélévitch dans ses lettres à Bauduc, il a repris le combat, et un combat actif, les armes à la main, et il a été à nouveau en prison pendant un an, dans les années 43.
Les armes à la main, Jankélévitch répugne pas à recommander de prendre les armes.
C'était une époque où il y avait des gens, dont j'étais, qui étaient déjà tout engagés par leurs origines, par le fait qu'ils étaient rejetés par la communauté nationale, qu'ils étaient comme non seulement des marginaux, mais des pestiférés, des hors-la-loi, et que, le voulant ou ne le voulant pas, bon gré mal gré, on était déjà engagés avant de s'engager. Et par conséquent, on a moins de mérite à coder des tracts, des papillons, et à faire des choses, à faire sauter des viaducs, lorsque, par essence, par origine et par définition, on est déjà engagé. Quand la France est envahie, piétinée attaqués par l'occupant, par des bêtes féroces, n'est-ce pas ? Alors à ce moment-là, on a guère le choix des moyens. Faire sauter un viaduc quand il passe un train, c'est une chose devant laquelle on n'hésiterait pas. Ce qui est dérisoire, mais au sens métaphysique du mot dérision, c'est que l'idée a besoin de la force physique, n'est-ce pas ? De la violence et même du sang pour triompher. Elle ne devrait pas en avoir besoin, mais comme elle en a besoin, eh bien il faudra peut-être remplir, faire couler le sang, n'est-ce pas ? Si vous avez un Allemand dans votre ligne de mire à la guerre et que vous ne tirez pas dessus, alors, comment faut-il appeler ça de la complicité ? Vous le faites exprès, alors. Vous n'avez pas le droit de l'épargner.
Reconnaissance de dette à Raphaël Antoven, nous avons utilisé une sélection qu'il a déjà faite pour les nombreuses émissions qu'il a consacrées à France Culture, Jean Kelevitch. Un viaduc, qu'il saute, un Allemand dans la visée de son fusil, qu'il meure.
Oui, c'est étonnant pour un professeur de morale de parler ainsi. Je vois ce que vous voulez me faire dire. Eh bien, quand il s'agit de défendre son pays, quand l'éthique principielle de la liberté qui est au cœur de sa pensée est en jeu, eh bien oui, il faut défendre son pays, même les armes à la main. Alors, il faut préciser que lui-même n'a pas fait de résistance active. Il a fait ce qu'appelait Henri Michel la résistance des mots. C'est-à-dire qu'il a beaucoup écrit, il a fait une grande résistance, mais non pas armé.
Je pense que c'est mieux parce qu'on l'aurait reconnu assez facilement.
Peut-être, et puis peut-être n'avait-il pas un don particulier pour la guerre, pour cette violence. Cela étant, il ne la justifie qu'en ce cas particulier. Et ce cas particulier permet, je pense... Alors, il faut dire que dans la pensée de Jean Kelevitch, qui était un philosophe de la vie, avant-guerre, il avait beaucoup écrit on le trouvait vitaliste, la pensée de Bergson, et il est resté un philosophe de la vie. Mais la guerre l'a engagé dans une vision de l'action, et quand il faut mener une action, le refus, le non, et le désir de tout mettre en œuvre pour que cette action aboutisse, et pour bouter pas l'anglais, mais l'allemand hors de France, eh bien, ce fut son but et son cas.
L'action est impure, mais l'angélisme est inactif. Alors, qui résiste a choisi. Cette résistance par les mots, il l'a exercée dans des réseaux de résistance catholique et dans une ville, Toulouse, qui fédérait, à partir de 1942-1943, les catholiques, les mouvements les socialistes qui étaient importants à Toulouse et qui avaient fini, comme les communistes, par se réveiller.
Ouais.
Jean Cassou, son beau-frère, est le commissaire de la République à Toulouse à la Libération. Il est blessé et Jean Kelevitch va être nommé peut-être par Pierre Berthaud, qui a remplacé Cassou, à la tête... Alors ça, c'était important
aussi.
C'est après
la Libération.
Après la Libération, il est nommé à la tête de la musique de Radio Toulouse.
Les émissions musicales de Radio Toulouse-Pyrénées, pour dire le titre exact.
Parce que dans l'appartement plus tard à Paris, il y avait un grand piano à queue.
Deux pianos à queue, parce qu'il jouait très souvent avec des amis. Et il y avait deux pianos auxquels une pièce était consacrée. Et puis un mur empli de partitions. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il n'avait pas désiré, tout de suite après la guerre, retourner dans la vie universitaire, parce que, comme il les appelait, les docteurs de l'indétermination, et même certains de ses collègues ne lui avaient jamais adressé aucun mot de compassion quand ils ont pris sa place et la place d'autres, bien sûr. Et donc, son amertume et sa tristesse et sa blessure n'étaient pas refermées. Dès ce moment-là, il a préféré, à ce moment-là, prendre une année, rester une année de plus à Toulouse, et ce poste lui a été offert.
On parle dans un instant de nouveau des textes que vous avez rassemblés dans l'esprit de résistance chez Albin Michel. Je sais que vous préparez la même chose pour des écrits épars sur la musique
derniers,
et que vous allez redonner les programmes que Jean Kelevitch avait organisé à Toulouse en 44-45 avec Radio Toulouse. Je sais qu'à Toulouse, tout passe par la voix, mais pour lui, l'instrument, c'était extrêmement important, l'instrument qu'il maniait si bien.
Je vais vous jouer de petites pièces de Scriabine, l'une des dernières années, opus 74, d'un prélude. La deuxième, intitulée Désir, qui date de 1908, je crois. Et je les jouerai à reculons, en commençant par la dernière, la plus hardie. Thank you.
marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Aujourd'hui, Vladimir Jankélévitch, la philo, la musique, vous avez vu, François Schwab, ce sont les morceaux courts, la musique n'est pas bavarde. Ouais. Il pouvait jouer devant personne.
Ah oui, le soir, comme il le disait très souvent, il donnait un concert pour ses fauteuils. Et grâce au ciel, quelquefois, j'assistais à ses concerts. Il jouait tous les soirs, 2 heures de piano, entre 7h et 9h. Et la place accordée à la musique, il faut bien le souligner, je la considère comme le tiers de ses passions dans sa vie, l'une passion étant la philo, son métier, l'autre la musique, et la troisième son engagement dans le siècle, c'est-à-dire sa vie dans la cité.
Et c'est à ça que font référence ces écrits de résistance que vous publiez chez Albin Michel. Souvent dans ses textes, il dit « François Cuzin aurait aujourd'hui tel âge, Jacques Cavaillès. Decour aurait tel âge, et moi je suis là, le survivant ». Qui entend prolonger en moi les souffrances qui m'ont été épargnées.
C'est exactement cela. Je pense que la douleur d'avoir survécu, le bonheur d'avoir survécu est accompagné de douleur. Et il se dit pourquoi moi ? Pourquoi Cavaillès, qui venait d'avoir un poste à la Sorbonne et qui, grâce à lui, ensuite a une salle comme François Cuzin, pourquoi ces jeunes hommes si brillants dans la fleur de l'âge ont-ils fait le sacrifice de leur vie ? Eh bien, cette pensée l'a hanté, et cette pensée de la résistance, il a voulu la prolonger dans la deuxième partie de sa vie, en écrivant bien sûr des choses, en ne manquant aucune manifestation de souvenirs. Comme il le disait souvent, le passé ne se défend pas tout seul comme se défend le présent et l'avenir. Donc nous, les survivants, ceux qui avons eu la chance de d'avoir survécu à ce massacre, à la guerre et à l'Holocauste, aux deux à la fois dans son cas, eh bien nous sommes là pour témoigner. Le témoin ne choisit pas, et lui dans son cas a choisi. Il a choisi de témoigner de cette période de la guerre.
Il dit l'imprescriptible. Oui. Ça, c'est un mot très important pour lui, qui s'est introduit ensuite dans le vocabulaire juridique international en force, fort heureusement.
Bien sûr, c'est au moment de la prescription, où il a été question de la prescription des crimes contre l'humanité, qu'il a jailli de son fauteuil pour écrire un premier article très très long qu'il a publié dans la revue administrative de son ami Robert Catherine, qui s'appelle l'imprescriptible. Ensuite, à partir de ce long texte, il en a extrait une bonne feuille qui a paru dans Le Monde en janvier 1965. Puis un deuxième texte aussi long que le premier, mais un peu différent, a paru dans le livre qui s'intitule L'imprescriptible. Et dans ces textes, il explique les raisons pour lesquelles on ne peut pas prescrire des lois qui ont permis aux hommes de tuer d'autres hommes, non parce qu'ils avaient fait quelque chose, mais simplement parce qu'ils étaient, pour leur être et non pour leur faire. Il n'y avait pas de justice qui allait passer là, c'était simplement le bon vouloir de vouloir faire une sélection et de se dire cet homme-là, par le fait simple d'être juif, sera tué. Et donc de nier l'humanité de tout homme, parce que si on tue un homme uniquement pour ce qu'il est, et non pas pour ce qu'il fait. Et il ne faut pas non plus le tuer pour ce qu'il fait. La peine de mort a été heureusement abolie. Mais là, c'est une chose contre laquelle il s'est élevé, évidemment, brutalement. Et surtout, il a désiré que ces crimes soient imprescriptibles pour les temps futurs.
La Shoah, c'est l'impossible, l'inhumain. Et le pardon, est-ce que c'est aussi l'impossible ? Je vous propose d'écouter un texte de lui, lu par Pierre Dumayet. Ensuite, on entendra une dernière fois la voix de Jankélévitch.
L'excuse disculpe le coupable parce qu'elle comprend. Le pardon, lui, ne pardonne pas parce qu'il comprend. Il pardonne sans raison. Le pardon ne connaît donc pas d'impossibilité, et pourtant, nous n'avons pas dit encore la première condition sans laquelle le pardon serait dénué de sens. Cette condition élémentaire, c'est la détresse et l'insomnie du fautif. Cette condition est pourtant ce sans quoi la problématique entière du pardon devient une simple bouffonnerie. À chacun sa besogne, au criminel le remords, à sa victime le pardon. Le repentir du criminel et surtout son remords donne seul un sens au pardon, de même que le désespoir donne seul un sens à la grâce. À quoi bon la grâce si le désespéré a bonne conscience et bonne mine? Le pardon n'est pas destiné aux coupables qui dorment et digèrent bien.
En gros, c'est ce que je pense toujours. J'ai horreur de ce pays-là, je ne crains pas de le dire. Je n'y vais jamais. J'accepterai pas que mes livres soient traduits en allemand. D'ailleurs, il n'y a pas de danger. On ne les traduira pas. Donc, je n'ai pas à faire de difficile, mais ça m'est bien égal. Et depuis la guerre, j'ai jamais mis les pieds là-bas. Je ne tiens pas à les revoir, n'est-ce pas? Je les vois du reste par mes fenêtres toute la journée parce que je vois leurs autocars avec leur nickel tout brillant, leur marque, leur gros ventre. Ils sont heureux, ils sont bien portants, tout va bien, n'est-ce pas? Ils nagent dans l'opulence, je les vois suffisamment comme ça, je n'ai pas besoin d'y aller.
J'ai mis à dessein deux propos de deux niveaux
bien sûr,
différents. Le dernier qu'on a retrouvé dans une émission de François-Régis Bastide, apostrophe, ça a quelque chose de personnel, voire d'irrationnel, son rapport avec les Allemands qu'il voit depuis l'appartement du Quai aux Fleurs. Et avant, le texte lu par Dumayet plaçait le pardon très haut dans l'ordre philosophique, comme quelque chose d'inaccessible, de presque fou, difficile à objectiver. L'homme, Jean Kelevitch, il était ces deux-là, l'irrationnel et le philosophe.
Aucune question dans sa vie ne fut plus pressante que celle-ci. Devons-nous leur pardonner? Mais ça, c'est l'homme personnel, comme vous le dites. Il a écrit, en tant que philosophe, un livre sur le pardon. Et dans ce livre sur le pardon, il expliquait qu'il fallait pardonner et que le pardon, c'était l'acte sublime qu'un homme accordait à quelqu'un qui lui demandait pardon. Mais comme le disait-il, il faut qu'il y ait deux personnes, que cela se passe dans le temps, et que ce soit uniquement moral. Ça n'a rien à voir avec la justice, le pardon. Or, toutes ces conditions n'étaient pas réunies pour la question du pardon que vous avez évoqué s'agissant de la Shoah, puisque personne ne lui avait jamais demandé pardon, et que le pardon ne peut s'accorder du point de vue personnel, non pas du point de vue juridique, du point de vue moral, à une personne qui n'est pas en face de vous, qui ne vous demande pas pardon.
Est dans l'insomnie,
lui a souffert d'une blessure. La véhémence de ses propos, et peut-être aussi même le côté peut-être un peu, on ne comprend pas bien qu'un homme comme Jean Kelevitch, si doux, si humble, si charmant, puisse avoir des propos si durs, eh bien moi-même, je ne les comprends qu'à l'aune de la grande sensibilité qu'il eut et de la grande blessure que cet intellectuel raisonnable et cet universaliste qui a dû répudier le pardon à cause de cet événement épouvantable que fut la Shoah et la mort de 6 millions d'hommes et d'enfants. Et il disait d'ailleurs, personne ne nous a demandé pardon pour les petits-enfants qu'on piquait d'une piqûre auquel on administrait une piqûre de phénol dans le cœur. Pourquoi moi serais-je en lieu et place de ses petits-enfants, en droit de pardonner.
Mais vous avez eu des discussions avec lui, en lui disant « Peut-être, je me mets à votre place, mais Vladimir, on n'a pas la tête très, très politique. Tout de même, c'est une erreur de ne pas participer à la réconciliation franco-allemande. » Alors aussitôt, il devait vous répondre « Réconciliation !» Alors il montait sur ses grands chevaux.
Bien sûr. Il faut dire aussi que ces textes et cette que je présente dans ce livre, avec deux amis que l'on n'a pas encore cités, que j'aimerais citer, Jean-Marie Brôme et Jean-François Rey, qui m'ont aidé et qui ont écrit des très, très belles choses dans ce livre. Eh bien, je pense que le mot, tout de suite après, ces textes donc ont lieu tout de suite après la guerre, entre 1943 et 1980. Bon, la blessure était récente et ce n'est pas à l'Allemagne d'aujourd'hui qu'il faisait référence. Peut-être aujourd'hui, ayant vu le trajet parcouru, il aurait une position peut-être un petit peu nuancée. Mais je ne le pense même pas.
En 80, cependant, il y a un certain Raveling, un jeune Allemand qui lui écrit une lettre, justement, quelques mois après apostrophe.
Par ses propos.
Il répond « Enfin la lettre que j'attendais !»
Et il lui dit « Venez me voir !» Alors il l'invite, ce jeune Allemand, Raveling, l'invite en Allemagne. Il lui répond « Je suis trop vieux. Votre lettre me touche infiniment. Je suis trop vieux pour me rendre en Allemagne, et d'ailleurs je n'irai jamais dans ce pays, mais par contre, si vous venez qu'aux aux fleurs, vous serez reçu comme le messager du printemps. » Il est venu, il a été merveilleusement reçu, et de bons rapports se sont institués.
On attend une publication de Raveling sur ce thème qui devrait venir
Je pense qu'il a publié quelque chose en Allemagne.
Alors on l'attend en français. Allez, à la demande générale, une dernière fois, ultime fois, Vladimir Jean Kelevitch.
L'idée que ça pourra continuer sans moi,
que je ne verrai pas le 21e siècle, par exemple. C'est une idée très difficile à supporter. Et on ne peut faire qu'une chose, c'est de ne pas y penser. C'est la grande déchirure de l'existence humaine, c'est le problème éternel. Il y a deux idées qui sont absolument contradictoires. La première est de concevoir une vie qui serait sans la mort, une vie éternelle, par exemple, dans ce monde. Et la deuxième, qui est l'idée du néant, qui est du reste une absurdité également. Comment puis-je disparaître avec un mauvais bagage, être évacué de la tête aux pieds? Et je dirais même que cette idée est tellement absurde, l'idée du néant, de l'anéantissement, qu'elle est en quelque sorte une preuve de ce qu'on ne peut pas prouver.
Vladimir Jankélévitch est mort en 1985. Françoise Schwab.
Oui, il y a une plaque, un qui est aux fleurs. Et sur cette plaque, elle résonne à ces propos que nous avons entendus. Il est écrit que celui qui a été ne peut plus désormais ne plus avoir été, que le fait même d'avoir été est son viatique pour l'éternité. Jankélévitch n'était pas un homme religieux, mais il croyait que le fait même d'avoir été était ce qu'il pouvait nous assurer. Non, par la mémoire, dans le cœur des vivants, et par le souvenir de ces vivants, une survie. Et je pense que son cours sur la mort qu'il avait commencé au Capitole, au Café du Capitole, et qu'il a écrit, il avait fait un gros livre sur la mort, il a écrit 600 pages pour dire « je ne suis pas plus avancé à la dernière page qu'à la première, ce n'est pas d'information particulière ». La conclusion la plus importante qu'il en tirait était le fait que le fait d'avoir été est notre aviatique pour l'éternité.
Merci à vous, Françoise Schwab, un livre chez Liana Lévy, je crois, sur Penser la mort avec Jankélévitch, et puis chez Albin Michel, L'esprit de résistance. L'émission était réalisée par Jacques Sigal avec à la technique Serge Viguier. La préparation, c'était Ilinka Negulesco.